vous avez lu le texte en avance pour le méditer dans la prière. On va le relire, ce texte, donc, il était prévu que nous méditions aujourd'hui, qui est tout simplement le dernier chapitre de l'Évangile selon saint Marc, donc le chapitre 16. Donc nous sommes page 37. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Le grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié ?» Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui ont vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux onze eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assied à droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnait. Soit vous allez à la chaise, soit la chaise va à vous, mais... Très bien, donc on peut reprendre, voilà, en silence, ce que nous avons lu, notamment la première partie jusqu'au verset 8. Alors, la dernière fois, je vous avais dit que ce chapitre 16 comportait quand même quelque chose d'un peu étrange. Est-ce que vous auriez une piste pour répondre à cette question, soit que vous l'ayez lu de la dernière fois, soit même pour ceux qui n'étaient pas là, il y a 15 jours que vous veniez de le lire. C'est quelque chose qui peut vous marquer quand même dans ce chapitre 16, dans la manière dont il est écrit, dans la manière dont il est composé.
Ah oui, pour moi, entre les versets 8 et 9, ça ne correspond pas du tout, c'est pas la suite en fait.
Exactement.
Donc, effectivement, parce que là, il parle de ressusciter le grand matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparu d'abord à Marie-Madeleine, c'est pas du tout ce qu'il dit en fait au début du chapitre 16. Hein.
Donc, effectivement, ce qui est étonnant dans ce chapitre, c'est qu'il y a une fin à partir du verset 9 qui semble coller au début du chapitre, alors que, bien sûr qu'on parle toujours de Jésus ressuscité, donc le fond est le même, il n'y a pas une partie du chapitre qui vous dit qu'il est ressuscité, puis une partie qui vous parle d'autre chose, mais dans la manière de parler, dans la manière de raconter les apparitions, dans même le vocabulaire, ce qui évidemment est moins perceptible en français, mais les spécialistes de Saint-Marc disent que dans cette partie, il n'y a pas le vocabulaire habituel de Saint-Marc, et qu'au contraire, on y trouve des mots qu'il n'emploie jamais par ailleurs. Donc ça va nous amener à commenter d'abord les 8 premiers versets, et ensuite la toute fin. Alors, il est communément admis que cette finale, à partir du verset 9, n'est pas de Saint-Marc, mais que pour autant, elle est ce qu'on appelle canonique, c'est-à-dire qu'elle est inspirée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible qui ne sont pas écrites par Saint-Marc et qui pour autant sont inspirées. Donc, il y a beaucoup de livres de l'Ancien Testament qui, sans avoir été écrits par Moïse, ou des psaumes qui n'ont pas été écrits directement par David, mais pour lesquels, eh bien, Dieu a favorisé l'auteur d'une inspiration pour qu'il écrive ce que Dieu souhaitait. Et donc, il est communément admis que cette finale n'est pas de Saint-Marc, mais que pour autant, elle est reconnue par l'Église comme étant inspirée. Alors pourquoi il est communément admis qu'elle n'est pas de Saint-Marc, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle ne s'intègre pas du tout au chapitre 16, parce que le vocabulaire est différent, parce que la manière d'envisager les apparitions du ressuscité sont très différentes. Alors, vous allez me dire pourquoi elle est là, dans ce cas-là, pourquoi on l'a rajoutée, qui s'est permis d'ajouter quelques versets à l'évangile de Saint-Marc, qui est quand même assez gonflé, etc. Bon, on verra pourquoi, mais on peut retenir qu'effectivement ce chapitre 16 est déjà scindé en deux. Si on reprend la première partie de ce chapitre 16, celui donc qui est indubitablement écrit par Saint-Marc et qui donc est dans la foulée du chapitre 15, on remarque dans les premiers versets ce qu'on avait déjà un peu dit la dernière fois, à savoir qu'il y a une bascule. Voilà, très clairement, le sabbat, le jour du samedi, fait office un peu de gond, en quelque sorte, autour duquel, eh bien, tournent les événements. Avant le sabbat, on est dans les ténèbres, on est dans la tristesse, on est à la fin d'une semaine. Après le sabbat, une nouvelle semaine commence, un nouveau jour commence, la lumière du soleil luit. Donc il y a un contraste très fort de part et d'autre de ce sabbat, dont d'ailleurs on ne nous dit rien. Ce n'est pas tellement ce qui s'est passé durant ce sabbat. Mais ce sabbat fait office un peu de frontière, de plaque tournante, non pas de la drogue, mais on n'est pas à Marseille malheureusement, mais fait office un peu de plaque tournante entre les ténèbres de la passion et la lumière de la résurrection. Alors, évidemment, il y a quand même une continuité. La continuité, elle est marquée par ce groupe des femmes, qui est toujours le même, même si les noms sont un tout petit peu différents, les noms des fils de Marie, un coup c'est José et Jacques, un coup c'est José tout seul, un coup c'est Jacques tout seul, bon, elle les reconnaîtra, je pense. Donc, il y a les deux José, deux Jacques.
Il y a
ça. Oui, c'est ça. Et là, il y a Jacques et José, et après quelques versets plus loin, il n'y a plus que José, et quelques versets plus loin, il n'y a plus que Jacques. Mais c'est toujours Marie, mère de Jacques et de José. Donc, c'est elle qui opère la continuité entre la passion, l'ensevelissement dans le tombeau, le matin de Pâques. Ce qui assure aussi la continuité, c'est le fait de vouloir embaumer le corps de Jésus. Ce qu'on avait dit, avant le sabbat, c'est la seule action qui n'est pas faite sur le corps du Christ. Donc, il est logique qu'après le sabbat, c'est cela qu'elle souhaite faire, et c'est cela qui les motive d'abord pour venir au tombeau. Alors, elles posent une question étonnante, ces trois femmes. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? C'est-à-dire, il est bien temps de se poser la question, une fois qu'on s'est mis en route, qu'on a déjà acheté tout ce qu'il faut, de se dire, bah, quand même, c'est quand même une grosse pierre, quoi. Hein. Et a priori, il n'y a pas quelqu'un qui va se balader dans le jardin. On n'a pas la chance d'avoir dévié Richard pour pousser la pierre. À Besançon, on a dévié Richard pour nous aider à déménager à Maison Saint-Odile, mais Marie, Salomé et Marie-Madeleine, elles n'ont pas dévié Richard. Donc, alors, c'est très tôt. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va, comme ça, deux jours après la Passion, se dire « Ah bah tiens, moi je vais aider les disciples de Jésus à ouvrir le tombeau de Jésus. » Donc ça paraît assez, assez compromis. Alors, cette question, bon, sans doute qu'elles se sont posées, évidemment, mais cette question, elle a aussi un intérêt. C'est-à-dire qu'elle laisse le lecteur un peu en suspens. C'est-à-dire, effectivement, il est embarqué avec elle. Comment vont-elles faire ? C'est un procédé un peu romanesque, traditionnel. Voilà, on est embarqué dans l'intrigue. L'intrigue est posée et on a envie de savoir comment elles vont faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça focalise aussi l'attention sur la pierre. Et effectivement, ce qui est frappant dans cette scène, alors, je ne pose pas la question, mais je vous donne la réponse tout de suite, c'est que Jésus n'est pas là. On parle de Jésus, on parle de Jésus ressuscité, on annonce qu'il est vivant, qu'il va précéder les apôtres en Galilée, mais n'empêche qu'il n'apparaît pas. Et le fait qu'il ne soit pas là, forcément, eh bien, ça nous invite à être encore plus attentifs au reste de la scène. Et le reste de la scène, c'est bien sûr les femmes. Donc, je vous dis, on est invité à faire route avec elles, c'est une démarche synodale. On est invité à aller avec elle. On regarde le jeune homme. Ça va être intéressant de s'arrêter aussi sur ce jeune homme qui est dans le tombeau. Et puis on regarde aussi, au-delà des personnages, deux éléments de la scène. La pierre et le tombeau vide. Vous voyez, dans cette scène, il y a finalement quatre lieux, quatre éléments importants. Les femmes, le jeune homme, la pierre, le tombeau vide. C'est sûr que si on lui disait que Jésus est là dès qu'elles arrivent, tout cela serait éclipsé, en fait, parce qu'on se concentrerait, bien sûr. Qui cherchez-vous ? Vous cherchez Jésus de Nazareth, ben nous aussi. Donc on ne cherche pas une pierre, on ne cherche pas un jeune homme, on ne cherche pas une femme. Donc tout cela serait éclipsé. Le fait que Jésus ne soit pas là, eh bien finalement, nous invite à nous attarder un petit peu sur ces différents éléments. Et la question des femmes nous invite à nous attarder sur la pierre, et donc on va y aller dans quelques instants. Mais on va faire un petit détour d'abord par le Seigneur des Anneaux. C'est la minute pub du jour. Pourquoi le Seigneur des Anneaux ? Parce que vous voyez, dans cette question des femmes, il y a quelque chose de spirituellement très fort, et se revient souvent dans le Seigneur des Anneaux, œuvre catholique par excellence, c'est cette idée que finalement, dans la vie chrétienne, souvent, il nous est demandé de faire ce qu'on peut. Et d'abandonner à Dieu, à la Providence, ceux qui nous dépassent. Il ne nous est pas demandé, finalement, l'impossible. Il ne nous est pas demandé de raisonner en disant, bah, puisque je ne peux pas tout faire, du coup, je ne fais rien. Il nous est demandé de faire ce qu'on peut et après, de laisser faire le bon Dieu. Il y a des adages qui sont attribués parfois à Saint Ignace de Loyola, parfois à Sainte Thérèse. Prier comme si tout dépendait de Dieu, agir comme si tout dépendait de nous. En même temps, tout dépend et de nous et de Dieu, puisque on a notre part et Dieu a sa part, évidemment Dieu a la part plus grande. Et souvent, dans le Seigneur des Anneaux, c'est ainsi que ça arrive. Le roi n'a aucune chance de gagner la bataille sous les murs de Minas Tirith, mais il y va quand même. Et il se laisse ensuite porter par les événements. Les événements, bon, ceux qui l'ont vu, c'est l'arrivée de l'armée qui était sous la montagne et qui avait été infidèle au roi du Gondor. Frodon et Sam n'ont, à vue humaine, aucune chance, à vue de Hobbit, aucune chance d'aller jusqu'au bout. Mais ils y vont, étape par étape. Et ils négocient une étape après l'autre. D'abord sortir de la comté, ensuite aller à son compte, ensuite aller jusqu'aux portes de Minas Morgul, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très fortement ancré dans l'esprit de Tolkien, qu'il met souvent en œuvre. C'est pour ça que Dieu, finalement, est très présent dans le Seigneur des Anneaux à travers cette providence qui guide les événements et qui intervient en faveur des bons. Et évidemment, on se fait à l'œuvre dans l'Évangile et notamment dans cette question. Et oui, ça, c'est une leçon que nous pouvons tirer dans de multiples circonstances de notre vie. Notre rôle, c'est d'acheter les aromates et de nous mettre en route. Et après, si on fait ça, Dieu trouvera bien un moyen pour rouler la pierre. Dieu y pourvoira, comme ce que disait Abraham à son fils. Qui nous fournira la victime? Où est ce que nous allons offrir en sacrifice? Dieu y pourvoira. Et ça, c'est très très fort. Hein. Et si, et voyez, le juste milieu, c'est ça. Les femmes se sont pas dit, allez avec les aromates, 2-3 kilos de nitroglycérine, on va exploser la pierre. Elles se sont pas dit, hein, de toute façon, la pierre est beaucoup trop grosse, c'est dimanche, elles sont couchées. Elles se sont levées au petit matin, à peine le soleil levé, et après, à la grâce de Dieu. On trouvera bien, Dieu trouvera bien le moyen, comme notre action est juste et bonne, que l'on sent vraiment dans notre cœur que c'est ça qu'il faut faire, Dieu trouvera le moyen. Donc voilà, ouais, cette question, elle est intéressante à de nombreux points de vue.
C'est ce que disait aussi Sainte Jeanne d'Arc.
Oui. Je ne sais pas quand, mais je crois.
Donc les hommes
combattent. Ah oui, oui, les hommes, Dieu donne la victoire.
C'est aussi le retour du roi comme le seigneur des hommes.
Ah,
exactement.
Oui, j'ai pas les mêmes références.
On a la référence pour deux.
C'est
Sainte Jeanne d'Arc, et maintenant il y a trop de. Et dans 20 ans, on ne sait pas ce que ce sera.
Dans 20 ans, je t'ai vu là. Pas de problème.
C'est ça, c'est avec le transhumanisme. C'est ça,
c'est
donc, est-ce que vous avez des questions déjà sur ce premier paragraphe? Sur ce transhumanisme, sur ce des années, sur les portraits de Jeanne ou... Levant les yeux, elle s'aperçoit qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elle verra ainsi à droite un jeune homme vêtu de blanc. Donc, effectivement, les commentateurs disent que cette pierre, ça marque s'y attarde quand même un petit peu. Qui nous roulera la pierre? La pierre est déjà roulée et on nous précise qu'elle était fort grande. Donc, d'après certains commentateurs, cette insistance a un but qui est, comme on disait, de voir dans la pierre, eh bien, finalement, la part de Dieu, dans nos vies, la part que Dieu fait, et puis de voir aussi dans la pierre, finalement, le symbole de la séparation entre l'homme et Dieu qui avait cours jusqu'à la passion et à la résurrection du Christ. Le péché originel avait mis sur le chemin entre Dieu et nous une pierre qui était fort grande. Puisque par le péché originel, nous naissons, par la Sainte Vierge Marie, dans un état d'éloignement avec Dieu. C'est ça la marque du péché originel. Et Jésus vient nous réconcilier. Alors, bien sûr qu'il y avait déjà des gens dans l'Ancien Testament qui étaient individuellement réconciliés, mais là, il vient réconcilier le genre humain avec Dieu. Il vient enlever la pierre qui faisait obstacle entre Dieu et nous. Donc finalement, voilà, dans cette pierre, il y a aussi peut-être une dimension symbolique. Certains voient même dans la pierre un peu l'équivalent du rideau du temple. De même que, comme on disait, dans le cœur du temple, il y a deux salles, il y a le saint et le saint des saints. Souvent dans les tombeaux juifs, il y a deux salles aussi. Et de même que le rideau est déchiré pour que nous ayons accès auprès de Dieu, que Dieu, tout en restant transcendant, eh bien, se fait proche de nous en Jésus-Christ, eh bien, de même, voilà, la pierre qui est roulée nous dit que désormais, en Jésus, nous avons accès au cœur de Dieu.
ça.
Alors maintenant, vous allez travailler un petit peu, je prends tout le temps. Qui est ce jeune homme? Ça, c'est facile, je vois. Bon. Alors, je mouille pas trop.
C'est lui qui est en bloc.
Ah, c'est à droite, toi. Non, pas moi. Ah, ah, je vois bien, je crois souvent en boulangerie.
Pas quand il avait perdu une voix et quand il est parti dans les olives et quand...
Alors, effectivement, c'est pas lui, mais il y a... Mais, ah non, c'est pas lui, je pense. Sans doute, c'est pas lui. Donc, effectivement, on ne voit pas qui ça pourrait être, à part un ange. Et pas Jésus. Bon, Jésus ne dirait pas, vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici. Bah, Marie-Madeleine ne le reconnaît pas au début, donc elle croit qu'elle est jardinier, mais on ne pense pas que Jésus serait taquin le matin de Pâques en disant « je ne suis pas là alors que je suis là ». Ça paraît étonnant. On peut difficilement envisager que ce soit quand même un homme, parce que on ne sait pas ce qu'il ferait là dans le tombeau, tranquillou-pilou. Donc c'est un ange. Bon, ça paraît assez clair, le fait qu'il soit vêtu de blanc, dans la Bible, c'est un code pour dire qu'il vient du ciel, pour dire qu'il vient de Dieu. Ceux qui viennent du ciel, généralement, sont vêtus de blanc, on voit ça notamment dans l'Apocalypse. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi Saint Marc nous dit que c'est un jeune homme, que ce soit un ange, on est tous d'accord, mais pourquoi Saint Marc ne nous dit pas, bah, voilà, Elvire dans le tombeau, assis à droite, un ange. Pourquoi il précise que cet ange prend les traits d'un jeune homme et qui est vêtu de blanc? Et là, on retombe, non pas sur Jean-Charles, mais on retombe sur l'idée de Jean-Charles. C'est-à-dire que le fait de préciser qui était la réalité, mais il aurait très bien pu ne pas le dire, il y a beaucoup de choses que Saint-Marc ne dit pas, donc pourquoi il précise que cet ange a les traits d'un jeune homme, eh bien, ça lui permet effectivement de faire le lien avec ce jeune homme de Gethsémanie, dont on pense qu'il est sans masque, qu'il a dû laisser son drap et qu'il s'est retrouvé tout nu. Parce que finalement, à travers cette figure du jeune homme, même si ce n'est pas le même, d'un côté c'est Marc, de l'autre c'est un ange, mais il y a quand même, de part et d'autre, le fait que c'est un jeune homme. À travers la figure de ce jeune homme, qu'est-ce qui est décrit ? Finalement, le chemin du disciple. Qui au départ est nu, et qui finalement, dans le tombeau du Christ ressuscité, se trouve vêtu de blanc. C'est le chemin du baptême aussi. On quitte son vieux vêtement, ça c'était dans la discipline antique, on est à l'ouest, là où le soleil se couche, le catéchumène enlève ses vieux vêtements, se retrouve tout nu, rentre dans la piscine baptismale, est immergé trois fois dans l'eau, et ressort à l'est, côté où le soleil se lève, et là il reçoit le vêtement blanc qu'il gardera pendant une semaine. Je précise à Anna, du coup elle n'aura pas à se mettre toute nue cette semaine. Non, elle est là. Rassurons-nous. Mais oui, le fait que, même si ce n'est pas le même jeune homme, mais symboliquement, Saint Marc a tenu à dire que c'était un jeune homme parce que lui, qui était sans doute à Gethsémanie, quand on lui a dit que l'ange avait les traits d'un jeune homme, bah, on peut imaginer que ça a éveillé quelque chose en lui. Et qu'il s'est dit, peut-être j'aurais tellement aimé être ce jeune homme qui se trouve dans le tombeau. Et que finalement, voilà, moi aussi j'ai à faire ce chemin, je suis tout nu, je suis dépouillé, je n'ai pas la foi, le soir du jeudi saint, ce sont les ténèbres, mais finalement, voilà, je fais le chemin avec le Christ, de passer par sa passion jusqu'à sa résurrection. Et là, je reçois le vêtement blanc du baptême, le vêtement de cette vie nouvelle. Et donc finalement, voilà, le fait que l'ange soit présenté sous les traits d'un jeune homme, nous dit quoi ? On nous dit que la résurrection ne concerne pas que le Christ. La résurrection, même s'il n'y a que le Christ, d'une certaine manière qu'il la mérite, parce qu'il est le seul à être pleinement fidèle. Et même si la résurrection n'est que le Christ qui mérite de ressusciter, parce qu'il a été fidèle jusqu'au bout, eh bien par pure bonté, par pure gratuité, il nous invite chacun à participer à la résurrection. Et ce jeune homme, vêtu de blanc, assis à droite de quoi on ne sait pas, mais il est assis à droite, comme Jésus assis à la droite du Père dans le ciel. Donc finalement, ce jeune homme nous montre que, uni à Jésus en faisant son chemin de passion et de résurrection, nous sommes appelés, nous aussi, à participer à sa gloire dans le ciel et déjà sur la terre à recevoir ce vêtement blanc de la foi, du baptême, de la vie chrétienne. C'est assez fort finalement. Il nous aurait dit un ange était là, sans préciser qu'il est assis à droite, sans préciser qu'il est vêtu de blanc, sans préciser qu'il prend les traits d'un jeune homme. Et bien finalement, il n'y a pas ce contenu où, là encore, vous voyez, on disait qu'on arrive avec les saintes femmes, mais là c'est plus encore. On arrive vraiment dans le tombeau avec l'ange vêtu de blanc, parce que c'est le chemin du disciple.
Quel ange aussi, parce que pour un ange qui vient à ce moment-là, c'est un moment très important, c'est comme un moment de l'annonciation,
c'est l'archange, ouais. Hein,
c'est un ange, en fait, de passer à la ligne, quoi.
Oui, c'est sûr que là, on...
C'était rien, quoi.
Je ne sais pas comment il a été choisi, de fait, si... On a fait le plus humble, mais on a pris.
Je sais pas, quand je parle son annonce, je dis, on sait que c'est le c'était la prochaine, à chaque fois, mais là, on
ne sait pas. On ne sait pas toujours, quand même, quel ange c'est. Effectivement, pour l'annonciation, on le sait, mais il y a un certain nombre de passages. Par exemple, il y a un ange qui vient consoler Jésus à Gethsémani. On ne sait pas qui c'est. Après, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense. Je ne suis pas sûr que l'annonciation à Zacharie soit précisée que c'est Gabriel. Là, je ne veux pas dire de bêtises. Mais après, Paris Saint-Joseph, on ne sait pas. Il y a plusieurs apparitions angéliques, on ne sait pas le nom.
Parce que là, c'est vraiment un moment.
Ah, ben c'est sûr que là, c'est une immense mission, parce que c'est même plus important d'annoncer que Jésus est ressuscité que d'annoncer que Notre-Dame va devenir la mère du sauveur. Bon, les deux sont très importants, on va pas faire un match, mais il y en a un, il est au début, l'autre, il est au sommet, quand même. Donc on peut dire que c'est presque plus important encore. Mais, c'est pas dit.
Il annonce à la fois, parce que Jésus a ressuscité, et en même temps, il annonce la future mission des apôtres. Donc c'est vraiment doublement important.
Mais après, on avait un peu parlé de ça la dernière fois, c'est-à-dire que parfois, Saint-Marc ou d'autres évangélistes laisse des personnes dans l'anonymat pour qu'on puisse aussi s'identifier à elles. C'est-à-dire que bon, on ne peut pas dire non plus que tout le monde est anonyme, il y avait des femmes, il y avait des apôtres, et puis on ne donne jamais le nom, ça serait un peu déconnecté de la réalité. Mais il y a des moments aussi où on peut penser que l'anonymat est laissé pour que précisément on puisse aussi s'identifier aux saintes femmes, qu'on puisse s'identifier à telle disciple, qu'on puisse. Au jeune homme riche, etc. Et que finalement, s'il était trop individualisé, peut-être que la distance est plus grande avec nous. Et le fait que ce soit anonyme, vous voyez, typiquement, le fait de dire que c'est juste un jeune homme, avec déjà l'allusion au jeune homme de Gethsémani, permet un cheminement plus simple à faire. Si on avait dit le jeune homme c'est Saint-Marc et l'ange c'est Saint-Michel, on aurait moins fait mieux. Voilà.
Puis aussi, rouler la pierre, c'est dire que c'est obligé de rouler la pierre, que Jésus ressuscite pas comme un esprit qui passe à travers.
Il passe aussi à travers. Donc,
ah bon
ouais.
Il passe aussi à travers.
Il passe à travers.
Non, mais parce que dans la magie un peu ésotérique, même de ce temps-là,
ouais.
Pensez aussi aux esprits qui. Alors, pas à travers les portes.
C'est ce qui se fait aussi, mais il y a les deux versants. C'est-à-dire qu'à la fois. Il passe à travers les portes parce que les portes du cénacle sont fermées et il rentre, ça c'est explicitement précisé dans l'évangile, et en même temps il dit aussi à ses apôtres, avez-vous quelque chose à manger, pour bien leur montrer qu'il n'est pas, et c'est explicitement dit aussi, pour bien leur montrer qu'il n'est pas un esprit, qu'il n'est pas un fantôme. Donc c'est tout le mystère du corps glorieux, qui est son vrai corps, qui est le corps avec lequel il a souffert, qui est marqué des stigmates de la passion, mais qui en même temps est dans une condition nouvelle. Donc c'est le même corps, mais avec un mode d'existence, un peu philosophique comme ça, mais une manière d'exister qui est différente de la manière d'exister avant la mort, puisqu'il n'est plus ce corps conditionné, prisonnier par le fait, ben voilà, que moi, si je veux passer la porte, je vais me prendre la vie tenante de ça. Et si je ne mange pas pendant plusieurs jours, je ne vais pas me sentir très bien, quoi. Bon, ben là, le corps glorieux est libéré de ses contingences matérielles. Mais il reste quand même un corps charnel avec les marques de la passion.
Et simplement, tu le touches.
On ne sait pas s'il le touche.
Ah, pardon.
Jésus dit avance ta main et mets ton doigt dans mes plaies, mais on ne sait pas s'il le fait. Mm. Alors, la plupart des artistes le représentent, mais l'évangile ne dit pas s'il le fait.
Et en tout cas, ce n'est pas un esprit.
Non, ça, c'est sûr que ce n'est pas un esprit. Mais c'est sûr aussi que Jésus, en tant que tel, n'a pas besoin que la pierre soit roulée pour sortir du tombeau.
Mais
on peut penser que l'ange roule la pierre pour révéler le tombeau vide, pas pour que Jésus sorte. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait les femmes, on a dit qu'il y avait le jeune homme, on a dit qu'il y avait la pierre, mais effectivement le quatrième élément, c'est aussi le tombeau vide. Alors, qui, en tant que tel, n'est pas une preuve de la résurrection. Vous pouvez imaginer que le tombeau soit vide parce que les apôtres sont venus chercher le corps, mais qui est évidemment une preuve avec tout ce qui se passe par ailleurs. Et là, le fait que l'ange leur dise « rentrez et voyez que le tombeau est vide », c'est une preuve mathématique, mais c'est quand même le signe que Jésus n'est plus là. Et c'est effectivement ce que dit l'ange pour accompagner le geste, il a dit, bah, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Vous voyez où on l'avait déposé. Donc le fait que le tombeau soit vide, effectivement, est devenu une affirmation chrétienne de la résurrection. Parce que précisément, il est vide parce qu'il est ressuscité. Donc le fait que le tombeau soit vide, et qui plus est, Saint-Pierre et Saint-Jean le verront avec le linceul affaissé, mais en bon état. Le corps de Jésus est sorti du linceul sans le déchirer, sont des signes forts de la résurrection. Non. Il ne le dit pas, mais en tout cas, c'est avant le grand matin. Donc c'est le dimanche, donc c'est entre minuit et le grand matin.
Est-ce qu'on peut voir aussi à travers ce bonhomme là? La propre résurrection des hommes.
C'est
la suite de Jésus, peut-être.
C'est
le premier homme, j'espère, ressuscité qui va le suivre. C'est ce jeune homme. Peut-être en indiquant justement le chemin de la résurrection. Vous parlez du corps glorieux, etc.
Dieu les
Oui, alors bon, là je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais. Mais effectivement, en tout cas, on peut voir dans cet homme, jeune homme, vêtu de blanc, assis à droite, l'annonce de notre propre résurrection si nous suivons le chemin de Jésus.
Ça, c'est sûr. À un moment, il disparaît, le jeune homme aussi. Il disparaît à la vue de ceux qui sont devant le tombeau.
Alors là, c'est pas dit, mais. Mais parce qu'après, il y a plusieurs apparitions. C'est-à-dire qu'il y a aussi, dans Saint-Jean, il y a deux anges de part et d'autre. Donc il y a plusieurs récits. Convergent tous plus ou moins, mais qui ne sont pas exactement identiques. Après, c'est sûr que Jésus, le samedi saint, descend aux enfers, dans les limbes des patriarches, pour prendre avec lui donc, tous les saints et les justes qui sont morts avant lui, donc qui effectivement ne pouvaient pas entrer dans le ciel, puisque c'est à Jésus de réconcilier l'homme et Dieu, de nous ouvrir les portes du ciel, donc d'enlever cette pierre symbolique qui nous barre la porte du ciel. Donc c'est sûr qu'il prend avec lui les âmes des justes de l'Ancien Testament et puis de toutes les civilisations qui l'ont précédé, les hommes qui ont été justes là où ils étaient. Après, là, on peut penser que c'est quelqu'un de cela, mais ça paraît pas
forcément très bien.
Peut-être, oui. Ça peut être éventuellement, peut-être Adam avec sous une apparition, un corps qu'il n'a pas, parce que pour le coup, Adam ne monte pas au ciel avec son corps, mais on peut imaginer que, comme il y a des apparitions de saints qui apparaissent à des mystiques, à des voyants avec une forme corporelle, on peut imaginer que ce soit Adam avec sa forme corporelle. Surtout qu'il y a une tradition qui, pour le coup, n'est pas du tout dans l'évangile, mais qui voudrait que le crâne d'Adam soit dans le Golgotha.
On voit souvent sur des tableaux.
Mais c'est plus spirituel pour faire le lien entre le premier homme et le premier homme de l'ère nouvelle des ressuscités. Mais on ne peut pas être sûr que ce soit un homme ressuscité par le Christ. Mais il leur dit, ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici, voici l'endroit où on l'avait déposé. Par ailleurs, on revient quand même une réponse, hein. Elles furent saisies de frayeur, ne soyez pas effrayés. L'ange ou l'homme prend acte de leur frayeur et donne à ces femmes donc une invitation, une exhortation qu'on retrouve souvent dans la Bible, que nous avons trouvé aussi avec le pape Jean-Paul II au début de son pontificat, le pape Benoît XVI également, donc n'ayez pas peur. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, paraît-il qu'il y a 365 fois dans la Bible cette invitation à ne pas avoir peur, à ne pas se laisser effrayer, à ne pas craindre, comme si Dieu, à travers sa parole, alors dans une année solaire, ça marche mieux, nous disait de ne pas avoir peur. Finalement, il y a un « n'ayez pas peur » pour chacun des jours de l'année.
Dans la Bible entière.
Dans la Bible entière, sous différentes formes, « ne crains pas »,« n'aie pas peur », c'est pas toujours le même mot exactement, mais tu aurais 365 exhortations à la confiance et à ne pas tomber dans une peur. Alors, ce qui est intéressant aussi avec la parole de l'ange, c'est l'insistance sur ce que j'appellerais la consistance historique. Et ça rejoint ce que disait aussi Jean-Charles. Et voilà, il ne dit pas vous cherchez le Seigneur, vous cherchez le Christ, vous cherchez votre maître. Il dit vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Voilà. Donc cet ancrage dans un lieu, Nazareth, dans un peuple, hein, donc il a reçu un nom hébraïque, un nom araméen, et l'insistance sur la crucifixion. Donc le fait qu'il n'y a pas à opposer, comme on l'a souvent fait en exégèse pendant 40 ans, souvent on a opposé le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. C'est-à-dire, voilà, il y aurait le Jésus qui a vécu, qui était un homme sage, bon, sans doute un prophète, sans doute voilà, une parole révolutionnaire, mais voilà, juste un homme, et puis il est mort. Et puis les communautés chrétiennes étaient tellement tristes, c'est vrai qu'on fait tout le temps ça, donc on est triste, on invente que quelqu'un a ressuscité, ça arrive dans tous les cas, machin, mais, et puis on arrive à convaincre le monde entier, c'est très étonnant, c'est qu'on arrive à convaincre tout le bassin méditerranéen que, bah, en fait, il est vraiment ressuscité, alors, en fait, pas du tout. Hein. C'est clair qu'il n'est pas. Donc, bah, c'est une théorie exégétique tout à fait plausible qui a tenu en haleine les gens qui avaient 8 doctorats et 4 maîtrises. Donc il y aurait le Jésus de Nazareth qui lui serait mort et enterré, qui était vraiment quelqu'un de bien, et le Christ de la foi qu'on aurait vraiment inventé de toutes pièces, voilà, pour se faire un petit shoot d'illusion. Mais bah, comme on était très convaincant, bah, on l'a répondu dans le monde entier. Enfin, sans guerre, sans l'imposer, en faisant massacrer à tour de bras, mais enfin, c'est un peu. Donc, ça paraît assez peu crédible, et le pape Benoît XVI s'est beaucoup affronté à cette théorie en disant « Ah non, il n'y a qu'un seul Jésus, celui qui nous est transmis dans les évangiles, il faut prendre les évangiles tels qu'ils nous sont donnés, on ne peut pas sortir ces petits ciseaux et puis découper ce qu'on aime bien, et puis il y a des exemples, c'est magnifique, parce qu'ils vont bien. » Alors, le verset 4, là, il est de Marc. Je ne veux pas dire ça, Marc. Celui-là est de Marc. Mais le 5, non. Non, non, le 5, il est d'une communauté qui se réclamait de Marc. Je sais pas comment il le voit. Donc, c'est assez incroyable. Donc, le pape Benoît XVI a dit, on va arrêter de prendre ces petits ciseaux. l'évangile nous est donné comme ça, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas en stock, à passage 18, c'est un marque redécoupé, etc. Donc on prend l'évangile qui nous est donné, tel que c'est inspiré, et dans cet évangile, on voit qu'il y a une parfaite continuité entre le Jésus de Nazareth le crucifié et Jésus ressuscité. Et je dirais que c'est aussi un impact dans notre vie spirituelle, puisque voilà, parfois on a un peu tendance à évacuer l'un ou l'autre. C'est-à-dire que grosso modo, pour faire ça à des traits immenses et caricaturaux, au XIXe siècle, on regarde surtout Jésus crucifié, et assez peu Jésus ressuscité. Aujourd'hui, on aurait tendance à regarder beaucoup Jésus ressuscité, mais à évacuer un peu la passion. Donc, la parole de l'ange ou d'Adam, en tout cas du jeune homme, nous dit bien qu'il faut tenir les deux bouts de la chaîne. C'est le crucifié qui est ressuscité. C'est celui qui nous a aimés jusqu'au bout dans sa passion, qui est arrivé au sommet de la vie dans sa résurrection. Il n'y a pas à opposer les deux.
Dans l'évangile, c'est souvent rappelé parce que Jésus, quand il dit qui suis-je, ou lors des miracles, on dit tu es ressuscité le Fils de Dieu, tu ne le dis pas. Le moment n'est pas venu. Donc en fait, dans l'évangile, on le sait déjà, c'est à la fois homme et Dieu, parce que c'est même certain, en fait, je n'ai pas les échos, mais il annonce, à chaque fois qu'il a fait cette annonce-là, Jésus, tu ne dis rien, le moment n'est pas venu.
Alors, oui, mais bon, personne ne dit tu es le ressuscité avant la résurrection. Mais effectivement, on dit plutôt tu es le Fils de Dieu. Et effectivement, surtout quand c'est les démons, mais aussi à d'autres moments, c'est très fort chez Saint Marc, ça s'appelle le secret messianique. C'est-à-dire que c'est seulement dans la résurrection qu'est pleinement dévoilée l'identité de Jésus. Et effectivement, quand Jésus fait des miracles, souvent, pas systématiquement, mais souvent dans Saint Marc, il demande une forme de discrétion et de secret. Jusqu'à la résurrection. C'est important aussi. Quand il descend du mont Tabor, Jésus dit, n'en parlez pas jusqu'à ce que je sois ressuscité des morts. Donc, normalement, la résurrection, c'est normal, hein, c'est l'annonce, donc c'est la mission. Donc là, on est, pour le coup, envoyé en mission. Donc, la résurrection signe la fin du secret messianique et, au contraire, là, l'identité de Jésus est pleinement révélée. Et donc, c'est cette identité, bon, comme je vous disais, il faut tenir les deux bouts de la chaîne. C'est Jésus de Nazareth, notre maître, notre Seigneur, le Christ, c'est le même. C'est le Jésus crucifié qui est le ressuscité. C'est le même, il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Et pareil, insistant donc sur la consistance historique de la résurrection avec ce triple. Hein. Il est ressuscité, il n'est pas ici, voici l'endroit où on l'avait déposé. Donc, comme vous disiez, le tombeau vide devient le signe de la résurrection, puisqu'il est la manifestation matérielle de l'annonce de l'ange. Alors un jour en 2028, quand il n'y aura plus le Covid-19, 2020, 2021, 2022, on ira à Jérusalem, et on fera exactement ce geste du pèlerin. C'est le geste des saints, d'entrer dans le tombeau, d'entendre notre cœur qu'il est ressuscité, de constater que le tombeau est vide. C'est le geste, par exemple, du pèlerin, que l'Église n'a cessé de refaire depuis ce matin de Pâques, comme les saints. Bon, vous avez encore un peu de tenus ou...
mm-hmm.
On termine donc la session, parce qu'on n'a toujours pas terminé ça, non. Moi je suis payé à la ligne en fait. La phrase interne, non, combien j'ai fait d'heures, alors je suis obligé de. Comme Balzac, je suis peut-être délié, sinon on ne mange plus. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. Donc, trois choses, rapidement. Il vous précède en Galilée, effectivement, ça fait référence exactement, si vous tournez quelques pages, page 33, donc chapitre 14, verset 28, on est au soir du jeudi saint, donc on est colonne de gauche, au milieu à peu près. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées, mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Donc, ça applique vraiment le programme que Jésus avait donné le soir du jeudi saint. Là, vous le verrez. On pourrait dire, Jésus n'est pas là, comme on l'a dit, le matin de Pâques. Le verra-t-on un jour? Il est ressuscité, c'est merveilleux, mais est-ce qu'il n'est pas déjà monté au ciel? Est-ce qu'il n'est pas déjà assis à droite du Père? Non. Les femmes ont l'assurance qu'il sera vu, qu'il n'est pas encore monté au ciel. Donc il y aura ce contact concret avec le Christ. Donc là aussi, vous voyez, on a insisté sur la consistance historique de Jésus, qui est né à Nazareth. On a insisté sur sa consistance de la crucifixion, il a vraiment été crucifié. On insiste aussi sur la consistance de sa résurrection. Il est ressuscité, et vous le verrez. Et troisième point, Pierre, qui est mis à part. Alors, les protestants ne sont pas contents, mais voilà, allez dire à ses disciples et à Pierre. Il y a une mission spéciale de Pierre, que l'on verra très bien dans l'évangile selon saint Jean. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Ce sera en Galilée, après la résurrection. Ouais. Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Eh bien, sois le pasteur de mes brebis. Donc, ça ne veut pas dire que les apôtres ne comptent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que Pierre, mais ça veut dire que dans le collège des apôtres, il y a une mission réservée à Pierre, et c'est pas pour rien que le jeune homme dit « Allez dire à ses disciples et à Pierre. » Quand Pierre s'est assez peu illustré les jours précédents, soit il ne comprenait rien, soit il était parti, soit il a renié, et pourtant, il est nommé. Parce que cette mission est perdue. Et c'est fort, ça. Quand on dit « Ah oui, mais vous avez inventé le pape, machin, tout ça. Ouais, » dans l'évangile de Saint-Marc, tout en reconnaissant les faiblesses, les limites de Pierre, l'évangile de Saint-Marc, comme celui de Saint-Jean, on reconnaît cette comme celui de Saint-Matthieu, d'ailleurs, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, eh bien, reconnaît ce ministère propre à Pierre. Allez, on termine. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes, elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Alors, il faut s'imaginer que l'évangile, au départ, se termine comme ça. Quoi. Alors c'est fort, hein. Tac. Allez, bam. Ah, j'avais quand même vécu pas mal de choses, quand même, pas beaucoup de temps, quand même. Alors, ce qui est intéressant, rapidement, pour ne pas perdre tout le monde, et qu'il y en ait quand même quelques-uns qui reviennent dans deux semaines, il y a trois fois, effectivement, des mots qui connotent la peur. Elles s'enfuirent, toutes tremblantes, elles avaient peur. Ça, c'est clair. Il y a deux mots qui disent vraiment qu'elles n'ont rien dit, quoi. Elles ne disent rien à personne. Donc, il y a une double négation dans le grec qu'on a essayé de garder en français. Donc, c'est vraiment rien de rien. Mais, il y a quand même ce mot, elles étaient hors d'elles-mêmes. Donc, hors d'elles-mêmes, mot à mot, c'est elles sont en extase. Donc, ça dit quand même plus qu'une simple peur, ça dit un mélange de peur et de ravissement. Ça dit quand même un mélange de peur et on pourrait dire d'une certaine manière d'excitation. Donc, c'est sûr qu'elles ont peur parce que c'est totalement nouveau pour elles, elles voient un ange, elles s'apprêtaient à oindre le corps de Jésus, il est ressuscité, elles se demandent sans doute... on va nous prendre pour des folles, etc. Donc il y a tout ça qui est en jeu. Et en même temps, il y a une forme d'excitation, de ravissement, de stupeur émerveillée, comme dit un commentateur pour traduire cet extase. Donc, ce n'est pas non plus que du négatif, que de la peur. Alors, on peut se demander quand même pourquoi ça se termine comme ça. Plusieurs explications. Première explication, le temps du narrateur se termine. Il est arrivé jusqu'à dire que Jésus était ressuscité. C'est le sommet de l'évangile. Maintenant, au lecteur de s'engager. C'est-à-dire que Saint Marc dit « Je ne vais pas raconter les débuts de l'Église. » C'est à chaque lecteur de vivre ce début de l'Église. Je ne vais pas raconter la mission, les apparitions du Christ ressuscité. J'ai dit l'essentiel. Maintenant, je m'arrête là. Et au lecteur de se situer par rapport à cette annonce-là. Donc, je laisse la fin en suspens, en quelque sorte. Je laisse un blanc. Et c'est à chacun de se positionner maintenant, à la fin de l'évangile. Deuxième chose, un peu similaire. Le temps de la vie humaine de Jésus sur la terre se termine. Donc, je clôt l'évangile. On commence maintenant le temps de l'Église, avec la mission des apôtres, aux quatre coins du monde. C'est un autre livre. Donc, un peu deux explications similaires. Le temps du narrateur s'arrête, le temps du lecteur commence. Le temps de Jésus sur la terre visible s'arrête, le temps de l'Église commence, c'est un autre livre. Autre explication, qui rejoint un peu ce qu'on a dit sur la pierre et l'entrée du tombeau. L'homme laissé à ses seules forces ne peut pas annoncer l'Évangile. Il faut une aide de Dieu. Ces femmes, laissées à leur seule force, à leur seul enthousiasme, à leur seul sentiment, eh bien, pour l'instant, elles ne disent rien. Et il faudra, notamment pour les apôtres, la grâce de la Pentecôte, et sans doute pour ces femmes aussi, une espèce de petite Pentecôte anticipée, il faudra la grâce de Dieu, l'aide de Dieu, pour qu'elles aient le courage de surmonter leur peur pour aller parler aux apôtres. Donc, il y a cette idée que l'homme, laissé à ses seules forces, ne peut pas annoncer l'Évangile. Il faut la grâce de Dieu pour annoncer l'Évangile. Et enfin, dernière explication, et on arrête là. Ça peut être aussi l'idée que annoncer l'Évangile, c'est pas juste parler comme ça d'une rumeur. Les femmes ne vont pas aller comme ça dans Jérusalem. Parler. Saint Marc nous dit, pour l'instant, elles ont peur, elles gardent le silence. Et le message qu'elles ont en elles, elles iront, quand le moment sera venu, quand elles sortiront de leur peur, elles iront le confier aux apôtres. Pour dire que là, ce message de Jésus ressuscité, c'est le message de l'Église, c'est pas le message de trois personnes qui iraient, comme ça, dire Jésus est ressuscité. Saint Marc nous dit non, c'est pas comme ça que c'est passé. Au contraire, elles avaient peur, elles ont gardé pour elles cette parole. Mais évidemment, si moi je vous la raconte dans mon évangile et si vous êtes en train de la lire, c'est carrément qu'elles sont passées au-dessus de leur peur et qu'elles l'ont confiée aux apôtres, et c'est les apôtres qui ensuite l'annoncent au monde entier. Est-ce que vous avez des questions? Même s'il est tard, je viendrai reparler.
On ne voit pas le résumé.
Prochain coup.
Prochain coup.
Donc voilà, cette nouveauté, nouvelle semaine, nouveau jour, nouvelle lumière, cette nouveauté radicale de la résurrection de Jésus. On est appelé, comme les saintes femmes, à venir en pèlerin au tombeau vide, à faire de notre mieux et à laisser Dieu faire le reste. Et nous sommes appelés, comme le jeune homme, à prendre ce chemin de la vie chrétienne, du baptême, de nous laisser dépouiller, de mourir au péché, dans la passion spirituelle, pour ressusciter et laisser le Seigneur Jésus prendre petit à petit la première place de notre cœur. Ce qui est un petit peu le fruit spirituel de ce passage. Avec cette insistance, comme on disait, sur la consistance historique de Jésus, de sa passion, de sa résurrection. Pas d'opposition entre la passion et la résurrection, entre le Christ de la foi et le Jésus de l'histoire. Si vous n'avez pas de questions, je sais que Marie avec vous. Incroyable. Donc pour la prochaine fois, on pourra donc relire la fin. J'ai commandé déjà passage 18, les évangiles de Saint Jean dans cette collection, donc pour dire quand même qu'on touche au but. Donc on lira donc la fin de l'évangile de Saint Marc. Vous pouvez le prendre en méditation, dans vos moments de prière. La prochaine fois, donc, c'est le 7 octobre, donc Notre-Dame du Rosaire. Donc je pense que je célébrerai aussi la messe. Ça tombe que sur des très belles fêtes, rendons grâce à Dieu. Et ce que, à titre personnel, c'est le jour de mon arrivée à Besançon. Et le jour de mon entrée au séminaire. Il y aura... Oh, j'avance quand on pleure, on jette des cotillons. Ça fera quand même 20 ans, jour pour jour, que je serai en fausse. 7 octobre 2001. Et 14 ans que je suis arrivé à Besançon, 7 octobre 2001. Ouais. Exactement. Voilà. Donc 7 octobre, messe d'Notre-Dame du Rosaire et 19h30, école de prière à 20h30 sur la fin de l'évangile de Saint-Marc. Ah oui, oui, oui. Là pour le coup, je... Ça va être chaud, exactement. Et on pouvait citer Sainte Tex aussi.
Ah, mais c'est pas un nom.
Ah non, premier pape quand même. Ah, c'est pas dans les Saint-Vierge. Oui, oui.